RFI 9h30, à Paris 7h30, en temps universel. Le journal, Xavier Besson.
Et nous sommes ce matin à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bunia, capitale d'une province de l'Ituri, en proie aux groupes armés. Reportage à l'hôpital Salama, le service de chirurgie n'accueille plus, à côté des urgences vitales, que les victimes de ces violences. Dans ce journal également, le Rwanda qui claque la porte de la CEAC, la communauté des États d'Afrique centrale. Kigali dénonce le rôle de la RDC. Explication dans un instant. Au Tchad, vous entendrez les opposants du bloc fédéral dire que les violations des droits de l'homme se multiplient dans le pays et que le pouvoir de N'Djamena muselle toutes les voix dissidentes. Et puis dans une dizaine de minutes, le journal des sports. On parlera notamment football et basket tout à l'heure avec Victor Missistrado. À quoi ressemble le quotidien de nombreux habitants de l'Ituri, cette province de l'est de la République démocratique du Congo? Depuis le mois de février, la province voit une recrudescence des attaques menées par les membres de groupes armés, à tel point qu'à Bunia, la capitale provinciale, le pôle de chirurgie de la clinique Salama accepte désormais uniquement les blessés liés à ces violences, ainsi que les accidentés de la route avec un pronostic vital engagé, et le service ne désemplit pas. Reportage de Coralie Pierret.
Espérance traverse la cour de la clinique Salama, un pagne sur les épaules. Ses trois larges cicatrices sur le crâne se sont refermées, mais son bras est encore immobilisé à cause de sa blessure par balle. Cette mère de famille a été prise en charge mi-février en urgence au pôle chirurgie après l'attaque de son village.
Cette nuit-là, des personnes non identifiées ont attaqué vers minuit. J'ai d'abord entendu des coups de fusil. Ceux qui tiraient étaient aussi accompagnés de personnes armées de machettes. Ils ont attaqué et blessé mes enfants.
Depuis le début de l'année, le nombre de blessés graves liés aux violences dans la région fluctue. Le service a donc réajusté ses critères d'admission, explique le docteur Christian Rwankuba, responsable médical pour MSF.
La prise en charge doit être de bonne qualité et c'est ce qui a poussé qu'on puisse garder des patients plus graves dus à la violence, mais les accidents de la route qui peuvent aussi se prendre en charge peuvent aller dans d'autres hôpitaux. Et là, ça va nous faciliter à avoir un taux d'occupation dans les standards, moins de 80%, faire des bonnes évaluations des patients et une bonne prise en charge des patients.
Depuis mi-février, les attaques de groupes armés augmentent dans la région où le conflit communautaire perdure et reste imprévisible. Coralie Pierret, de retour de Bunia, RFI.
Et hier, c'est à Malabo, à plusieurs milliers de kilomètres de là, que les tensions dans cette région des Grands Lacs se sont à nouveau exprimées. Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, qui accueillait une réunion des chefs d'État de la CEAC, la communauté des États d'Afrique centrale. Le Rwanda aurait dû récupérer la présidence tournante de l'organisation. Finalement, ce n'est pas le cas. Et conséquence, Kigali annonce son départ de la CEAC et met en cause la République démocratique du Congo. Amélie Tulé.
Le Rwanda proteste ainsi contre la décision prise ce samedi à Malabo. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a en effet choisi de prolonger d'une année supplémentaire la présidence de l'organisation par la Guinée équatoriale et donc par le président Obiang Nguema. La conférence a différé à un autre moment le passage de la présidence tournante au Rwanda, peut-on lire dans le communiqué final du sommet. En réaction, Kigali déclare, je cite, « déplorer l'instrumentalisation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale » par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. Fin de citation. Selon un commissaire cité par l'agence France-Presse, les représentants de la République démocratique du Congo auraient fait valoir qu'ils ne pourraient pas se rendre aux activités de la communauté s'ils étaient accueillis par le Rwanda. Dans un communiqué du ministère rwandais des Affaires étrangères, Kigali dénonce la remise en cause de ses droits garantis par les textes constitutifs de la CEAC et pointe, je cite, l'échec de l'organisation à faire respecter ses propres règles.
Amélie Tulé, RFI, 8h34 à N'Djamena. Quel climat politique au Tchad, un pays où avant-hier le président Mahamat Idriss Déby a promis la tolérance zéro, a-t-il dit, envers ceux qui compromettraient la paix sociale et l'intégrité territoriale. Le chef de l'État tchadien, qui n'a pas nommément cité l'ex-premier ministre Succé Masra, actuellement en détention, est poursuivi pour des faits présumés d'incitation à la haine et à la révolte qu'il dément. Dans ce contexte, une autre prise de parole hier, celle des opposants du bloc fédéral, qui dénonce une augmentation des violations des droits de l'homme et qui accuse le pouvoir de N'Djamena de museler les voix dissidentes. Écoutez le professeur Banyara Yoyana, porte-parole du Bloc fédéral.
C'est un système de terreur générale, aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes. Et plus rien ne marche. Et on est en droit de se demander si on est encore dans un système démocratique. Cette démocratie est une fausse démocratie, même si c'est devenu leur slogan depuis leur arrivée au pouvoir. En tout cas, plus personne n'a le droit à la parole. La libre circulation des citoyens n'existe pas, tout est contrôlé. Les appels sont contrôlés et il y a l'arbitraire qui règne. Il faut continuer à parler, il faut continuer à dire ce qu'il faut dire au pouvoir. Parce qu'ils sont arrivés au pouvoir sur la base d'un programme et ce programme n'est plus respecté. Nous estimons qu'il est temps qu'on essaie d'agir parce que les gens ne sont pas du tout dans un état de droit, comme on dit. On subit et on continue à subir jusqu'à quand et pendant combien de temps.
L'opposant tchadien Banyara Yoyana, porte-parole de la coalition nommée Bloc fédéral, joint pour RFI par Guillaume Thibault. Situation des droits de l'homme en Tunisie, où la société civile s'inquiète après des blocages de comptes bancaires de plusieurs associations. Certaines ont même eu leurs comptes gelés, le tout sur fond d'enquête de possibles blanchiments d'argent. L'association de défense des droits LGBT Mojin a annoncé devoir même fermer ses locaux, faute de pouvoir payer son loyer. Et pour un membre chargé de projet à Avocats sans frontières qui a souhaité rester anonyme, ce genre de blocage financier est en fait une manière de mettre au pas, voire même de dissoudre implicitement le tissu associatif tunisien.
D'abord, on vise les associations qui opèrent dans le domaine de la démocratie, de l'état de droit, du respect des droits de l'homme. Donc ceux-là sont les ennemis numéro un. Les plus faciles à abattre ont été celles qui opèrent autour du sujet de la migration. Il y a une opinion publique qui a été travaillée de la part des autorités pour présenter la question de la migration comme un complot visant à changer la composition démographique du pays, qui a donné suite à une vague raciste dans le pays. Et donc ces organisations aujourd'hui ont été pointées du doigt et ont été accusées de tous les maux. On voit aujourd'hui le même mode opératoire s'opérer autour des associations qui œuvrent pour la cause des droits des personnes LGBT. Donc je pense qu'il y a un ordre de priorité qui correspond au discours officiel et qui reflète également les inquiétudes amplifiées, je dirais, par le populisme ambiant.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également, la Guinée équatoriale, où le président Teodoro Obiang Nguema vient de gracier les deux ressortissants sud-africains arrêtés en 2023 et condamnés à 12 ans de prison pour trafic de drogue. On se rappelle qu'ils avaient été arrêtés peu après la saisie par la justice sud-africaine de plusieurs biens appartenant au vice-président équato-guinéen, qui est également le fils du chef de l'État. Drapeau en berne et festivités suspendues, la Zambie a débuté une semaine de deuil national après le décès de l'ancien président Edgar Lungu. Il est mort en Afrique du Sud et sa dépouille mortelle devrait être rapatriée mercredi prochain à Lusaka, la capitale zambienne, où un hommage national lui sera rendu. RFI, 7h38 à Bamako, le Mali, où l'armée malienne s'est retirée d'un important camp militaire du centre du pays, le camp de Boulkessi. Hier, plus aucun soldat n'était sur les lieux, alors que ce camp a subi cette semaine deux attaques meurtrières de la part de membres de groupes djihadistes, nous explique Serge Daniel.
Plus un seul soldat malien dans le camp de l'armée à Boulkessi. Sur place, dans le camp désormais vide, des véhicules militaires abandonnés, quelques tentes et des vivres, très probablement le ravitaillement des hommes qui occupaient cette position. Importante caserne de l'armée dans le centre du Mali, le camp de Boulkessi s'étend sur plusieurs hectares. Il a été attaqué par les djihadistes à deux reprises en deux jours. Le premier raid a coûté la vie à de très nombreux soldats. Les assaillants fortement armés sont arrivés à pied, à moto et à bord de véhicules pick-up. Lors de la seconde attaque, d'après nos informations, les djihadistes ont utilisé des drones. Après leur départ, un convoi de l'armée s'est rendu sur les lieux. Objectif, aider les derniers rescapés à quitter le camp. Pour expliquer ce départ plutôt précipité des lieux, une source militaire locale récuse le terme d'abandon du camp et préfère parler de retrait stratégique. Les observateurs insistent de leur côté sur les pressions de plus en plus fortes des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, lié à Al-Qaïda. Ils ont multiplié depuis quelques semaines des attaques au centre, au nord et au sud du Mali contre des positions de l'armée.
Serge Daniel. Sachez aussi qu'au Libéria, l'ancien président de la Chambre des représentants est en détention, Jonathan Fonati Kofa, inculpé avec plusieurs autres élus pour l'incendie qui avait touché le congrès à Monrovia au mois de décembre dernier. Et d'après le chef de la police locale, il existe de solides preuves contre lui. Enfin, c'est une conséquence de la suppression par Donald Trump des financements de l'USAID, l'agence américaine de développement. Et c'est une information du Washington Post et de l'agence Reuters. Des millions de produits contraceptifs destinés en particulier à l'Afrique saharienne sont aujourd'hui bloqués dans des entrepôts et menacés d'être détruits. Laura Martel.
D'après l'enquête du Washington Post, le stock en question, entreposé en Belgique et aux Émirats Arabes Unis, comprend des préservatifs, mais aussi des implants contraceptifs, des pilules et des dispositifs intra-utérins pour une valeur de plus de 12 millions de dollars. Des moyens de contraception initialement destinés en majeure partie aux femmes vulnérables d'Afrique subsaharienne, notamment les plus jeunes, exposées aux grossesses précoces, et toutes celles qui n'ont pas accès aux contraceptifs, faute de moyens ou en raison de conflits. Le stock est bloqué depuis que le gouvernement américain a gelé en janvier l'essentiel de ses programmes d'aide au développement et semble ne plus vouloir ni faire don des contraceptifs ni en payer les coûts de livraison ou de destruction et insisterait plutôt pour les vendre, bien qu'un haut fonctionnaire du département d'État qui supervise USAID affirme qu'aucune décision quant au devenir du stock n'a été prise. Selon le Post, des discussions ont été lancées entre des représentants des pays concernés, des agences et ONG humanitaires internationales et Chemonix, l'entreprise chargée de l'approvisionnement en produits de santé d'USAID. Mais la vente, comme le don, s'avère difficile, admet un responsable de Chemonix, car au-delà de l'aspect financier, la moitié des contraceptifs stockés ont d'ores et déjà une durée de vie inférieure à celle habituellement exigée pour l'importation de produits de santé.
Laura Martel, en temps universel, il est désormais 7h42 et vous êtes avec Julien Coquelroem pour la suite des RFI Matin.